Il est tout juste 6h43, Andréane Ménard.
Merci Edouard, on vous retrouve dans moins d'une heure, tout de suite le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
Et on parle foot évidemment, ce matin spécial Ligue des Champions ce soir sur RFI à partir de 19h40 temps universel pour suivre les premiers huitièmes de finale retour de cette compétition.
Et des affiches au programme, une soirée qui démarre à 17h45 TU avec Barcelone-Benfica et puis, vous le disiez, ça sera à suivre sur RFI Liverpool-Paris Saint-Germain, un Paris revanchard après sa défaite 1-0 du match aller. Des Parisiens qui avaient été bien supérieurs aux Reds. Même Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, le reconnaît, mais il prévient, Mo Salah et son équipe seront bien meilleurs au match retour.
Je n'ai pas été surpris du tout par leur performance. Ils m'avaient déjà beaucoup impressionné avant ce match. J'ai regardé beaucoup de leurs prestations et j'ai été vraiment impressionné par l'intensité de leur jeu, la cohésion de leur équipe et leur capacité à faire des rotations au milieu de terrain. C'est une équipe tellement complète, tellement bien gérée et je pense qu'on en a fait les frais mercredi dernier. Certains ont pu dire qu'on avait mal joué, mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils ont plutôt fait un match extraordinaire. Cette saison, c'est la première fois qu'on affronte une équipe qui combine autant de qualité et d'intensité, mais je pense que de notre côté, on peut faire mieux. Je ne dis pas qu'on a mal joué ou qu'on n'a pas bien joué du tout, mais nous sommes une bien meilleure équipe que la semaine dernière. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de montrer avec l'aide de nos supporters.
Arne Slot avec Cédric De Oliveira, Liverpool-PSG, début de la rencontre à 20h, temps universel. À suivre donc en direct et en intégralité sur l'antenne de RFI à partir de 19h40 TU. Dans le même temps, l'Inter Milan défiera le Feyenoord Rotterdam et duel 100% allemand entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich.
En Afrique, les 5e et 6e journées d'éliminatoire de la Coupe du Monde approchent et la Libye, qui affrontera le Cameroun et l'Angola, devrait présenter son nouveau sélectionneur aujourd'hui.
Une vieille connaissance. 5 mois après avoir quitté les Lions de la Teranga, Aliou Cissé devrait paraffer un contrat de 2 ans avec les Chevaliers de la Méditerranée. Une nomination diversement appréciée au Sénégal ou à Annie Johnson Sambou.
La dernière apparition d'Aliou Cissé sur un banc de touche remonte au 9 septembre lors d'une victoire du Sénégal 1-0 au Burundi. Limogé le 2 octobre, voici l'ex-coach des Lions sur le point de s'engager avec la Libye. Une destination pour le moins surprenante pour beaucoup de Sénégalais, à l'image d'Amadou Seck.
Vainqueur d'une Coupe d'Afrique, après vous allez prendre un pays comme la Libye. Je ne comprends pas vraiment le challenge, peut-être c'est d'ordre pécuniaire, moi je le pense comme ça.
Malgré tout, les Sénégalais qui n'ont pas apprécié la manière avec laquelle Aliou Cissé a été limogé après 10 ans à la tête des Lions se réjouissent de la perspective de le voir reprendre du service. Beaucoup restent cependant dubitatifs sur les chances de réussite du technicien de 48 ans en Libye, eu égard à son passé glorieux avec le Sénégal.
Le temps qu'il a eu avec les Lions pour faire ce résultat, je ne pense pas qu'un autre pays le lui donnera. Mais on lui demandera au moins d'être présent dans les compétitions internationales.
La qualification à la CAN 2027 serait l'un des principaux objectifs assignés à Aliou Cissé. Il devrait débuter son aventure le 20 mars prochain contre l'Angola en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 où la Libye est deuxième de son groupe. Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
Et pour ces éliminatoires de Coupe du Monde, les champions d'Afrique en titre oscillent entre retour et absence marquante.
Emers Faye, le sélectionneur ivoirien, a décidé de se passer des services de Seko Fofana, légèrement blessé, et de Wilfried Zaha, pour qui la porte reste toutefois ouverte. Retour en revanche pour Sébastien Haller et Jean-Philippe Bamin, les Ivoiriens qui affronteront le Burundi et la Gambie.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Ménard.
Une attaque massive de drones ukrainiens a visé cette nuit la Russie. Selon l'armée russe, 337 drones ont été abattus, dont 91 dans la région de Moscou, la capitale. Et cela intervient à quelques heures de pourparlers en Arabie Saoudite entre Ukrainiens et Américains concernant la guerre en Ukraine. Kiev, qui espère bien récupérer le soutien de son allié Washington et qui doit présenter un plan de cessez-le-feu partiel avec la Russie. Une idée prometteuse selon le chef de la diplomatie américaine. Et c'est dans le viseur des États-Unis que le Groenland vote aujourd'hui pour des législatives à enjeux forts, avec en toile de fond la question de l'indépendance, notamment, et les velléités expansionnistes de Donald Trump pour ce territoire autonome danois. Pour le chef des FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes, l'accord avec le président syrien par intérim représente, je cite, une vraie occasion pour construire une nouvelle Syrie. Par ailleurs, hier, les autorités syriennes ont annoncé la fin de l'opération militaire menée dans l'ouest du pays, région berceau des Alaouites dont est issu le clan Assad. La quasi-totalité des 1068 civils tués sont issus de cette minorité, chiffre donné par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis un mot des Philippines. Ce matin, l'ancien président du pays, Rodrigo Duterte, a été arrêté à l'aéroport de Manille en application d'un mandat d'arrêt de la CPI qui le soupçonne de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre la drogue. Ils sont quatre candidats à avoir obtenu la validation pour se présenter à la présidentielle du 12 avril prochain au Gabon. 4 sur les 23 candidatures déposées, et parmi les validés, notamment le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les candidats recalés ont jusqu'à demain, mercredi, pour contester devant la Cour constitutionnelle ce qu'a fait le syndicaliste Jean-Rémy Yama. Pour mieux comprendre, Christophe Boisbouvier a appelé Bergès Mieté. Il enseigne à l'Université internationale de Libreville et il est chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Entretien.
Bergès Mieté, bonjour.
Bonjour.
23 dossiers de candidature déposés, mais seulement 4 dossiers retenus. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Cela suppose que ce scrutin-là a suscité beaucoup d'intérêt, un engouement au regard du nombre de candidatures. On peut tout simplement déplorer que le nombre de dossiers retenus ne soit pas conséquent.
Oui, 19 dossiers ont été rejetés.
Oui, tout à fait.
Alors, parmi les dossiers rejetés par le ministère de l'Intérieur, il y a ceux des 4 femmes qui voulaient être candidates. Et puis, il y a le dossier d'une figure de la société civile, le leader syndicaliste Jean-Rémy Yama, qui a fait 18 mois de prison sous le régime Ali Bongo. Officiellement, il est recalé parce qu'il n'a pas présenté l'acte de naissance de son père, qui est né il y a plus d'un siècle, en 1920. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, au Gabon, il y a effectivement un problème d'état civil qui ne concerne pas que Jean-Rémy Yama, beaucoup de personnes. Je pense que, étant donné que les autorités sont conscientes de cette question-là, le problème d'état civil, je pense qu'il devait y avoir des mécanismes permettant de faciliter l'accès d'établissements, des jugements supplétifs, ne serait-ce que pour des candidats qui aspirent à la magistrature suprême.
Alors Jean-Rémy Yama introduit un recours devant la Cour constitutionnelle. Pour sa défense, il dit deux choses. Un, qu'en 1920, l'année où son père est né, le Gabon n'existait pas administrativement. Et deux, qu'il est inscrit sur son acte de naissance à lui que son père et sa mère sont gabonais. Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle vont être en mesure d'entendre ces deux arguments ?
Ben, on l'espère, hein, tout simplement. Dès lors que la nationalité des parents figure bel et bien sur le document d'état civil du concerné, je pense que les juges en tiendront compte.
Et si le recours de Jean-Rémy Yama est rejeté, est-ce qu'on pourra parler d'excès de formalisme ou d'une décision politique ?
Je pense qu'on parlera plutôt d'excès de formalisme, quand bien même on peut tenir compte des deux éléments, puisque à la différence d'autres candidats, Jean-Rémy Yama apparaît davantage comme le candidat anti-système. Je pense que Jean-Rémy Yama tente d'incarner la nouvelle opposition gabonaise en construction. Et pour ce scrutin-là, pour beaucoup, l'idée serait qu'il participe effectivement.
Voulez-vous dire que s'il ne peut pas se présenter, beaucoup de Gabonais diront qu'il a été écarté parce que le général Oligui Nguema en a peur ?
Je pense que cette idée-là pourrait effectivement être mobilisée. Je pense que Jean-Rémy Yama a la particularité de pouvoir parler avec tout le monde. Et comme il n'a jamais appartenu officiellement au régime précédent, je pense que sa voix est entendue par beaucoup de Gabonais. Maintenant, si sa candidature est retenue, on verra sur le terrain comment il va se déployer.
Longtemps, la Cour constitutionnelle a été présidée par Marie-Madeleine Boransuo, qui était une personnalité très proche du régime d'Ali Bongo. Elle a d'ailleurs été écartée au lendemain du coup d'État du 30 août 2023. Aujourd'hui, est-ce que le nouveau président de la Cour, le magistrat Dieudonné Abba Owono, est considéré comme un proche du régime de Brice Clotaire Oligui Nguema ?
Oui, tout à fait. Il pourrait être taxé de partialité en raison de sa proximité avec le président de la transition. Et d'ailleurs, sa nomination à la tête la Cour constitutionnelle a fait réagir une certaine classe politique au niveau national.
Le général Oligui Nguema et le magistrat Dieudonné Abba Owono sont cousins. Est-ce que ce lien de parenté peut nuire à la crédibilité à venir des décisions de la Cour ?
On a vu récemment avec la sortie de Jean-Rémy Yama sur un processus de fraude qui était en marche. Il appelait d'ailleurs le Gabonais à la vigilance. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a d'autres candidats en liste. Il y a la candidature d'Alain-Claude Bilbinzé, que je considère comme étant le principal challenger de Brice Oligui Nguema. Quand bien même Alain-Claude Bilbinzé a été, à une décennie durant, le visage du régime d'Ali Bongo, il apparaît considérée auprès d'une certaine frange de la population comme une personne sulfureuse en raison de ses prises de position passées.
Donc pour vous, si Jean-Rémy Yama ne peut pas se présenter, il n'y aura pas match.
Oui, je pense que la présidentielle du 12 avril 2025 ne sera pas très disputée, très compétitive. Et cette hypothèse-là se fonde sur trois faits majeurs. En premier lieu, il y a comme un consensus national autour de la candidature et la personne d'Oligui Nguema. Autre élément, donc, Brice Oligui Nguema est l'auteur du coup d'État. Ce fait historique est source d'adhésion et d'admiration. Et dernier élément, Brice Oligui Nguema n'a pas, comme je disais tantôt, en face d'adversaire très fiable. Donc, faute de challenger, je pense que le scrutin présidentiel du 12 avril sera un match amical entre Oligui Nguema et un candidat de faible envergure.
Bergès Mietté, merci.
Bergès Mietté, enseignant à l'Université internationale de Libreville, en ligne avec Christophe Boisbouvier. Une situation très anormale, voilà comment le ministre japonais de l'Agriculture décrit le marché du riz. Il faut dire qu'au Japon, en un an, les prix ont augmenté de plus de 70%. Le gouvernement a donc décidé d'agir et a commencé depuis hier à vendre son riz issu de ses réserves d'urgence. Bonjour Marie-Pierre Olfond.
Bonjour.
Vous nous dites, Marie-Pierre, que la hausse des prix a commencé l'année dernière.
Oui, et pour deux raisons essentiellement. D'abord, une mauvaise récolte en 2023 qui a entraîné moins de disponibilité en 2024 et ensuite une forte demande l'été dernier liée à la crainte d'un séisme majeur. L'alerte donnée par les autorités a fait paniquer les habitants qui ont réalisé des stocks et vidé les rayons des magasins. À cela, il faut ajouter une dose de spéculation comme c'est souvent le cas quand un marché devient tendu. Pour inverser cette spirale qui tire les prix vers le haut, le gouvernement a donc décidé début mars de puiser dans ses stocks stratégiques. Les autorités attribueront d'ici demain 150 000 tonnes de riz aux enchères et envisagent d'en libérer 60 000 tonnes supplémentaires si besoin.
Mais alors est-ce que ça ne coûterait pas moins cher au Japon d'importer du riz ?
Effectivement, le Japon y gagnerait car sur le marché mondial, les prix sont en baisse depuis fin septembre. C'est à cette période que l'Inde, le premier exportateur mondial, a remis plus de riz en circulation après des mois de restrictions. Et actuellement, l'offre dépasse la demande. Mais le Japon est un marché très spécial. Les Japonais consomment essentiellement leur variété de riz et pas le riz importé. C'est une question d'habitude alimentaire. Donc le marché est, pour schématiser, insensible aux prix pratiqués sur le marché mondial.
Et Marie-Pierre, le Japon importe tout de même du riz, hein.
Oui, même s'il a refusé pendant longtemps de le faire par protectionnisme, il a été contraint finalement dans les années 90 d'ouvrir son marché intérieur sous pression de ses partenaires commerciaux. Le pays importe 8 à 10% de ses besoins, soit environ 700 000 tonnes par an. Ce sont des importations très stables, mais qui sont destinées surtout à l'industrie et à l'alimentation animale.
La chronique matière première sur RFI avec Marie-Pierre Olfond. Et chaque jour, ce sont 20 minutes de reportage à écouter sur notre antenne et vous entendez un extrait dans RFI Matin. Chaque jour, aujourd'hui, direction Berlin, la capitale allemande en pleine transformation pour faire face aux effets du changement climatique. L'une des idées de la municipalité, c'est le concept de la ville éponge, concrètement permettre à la terre d'absorber l'eau ou bien de la collecter pour la rendre ensuite disponible en période de forte sécheresse. Depuis 2018, pour chaque nouvelle construction, plus aucune goutte de pluie ne doit partir dans les canalisations et la mise en œuvre est complexe. Berlin, ville éponge sur la voie de l'adaptation au changement climatique. C'est un court reportage de Stéphanie Schuller. Extrait.
Il n'y a pas de plus beau son que celui de l'eau qui coule.
Jörg Wenners, vous êtes à la tête d'une initiative citoyenne ici dans le quartier de Charlottenburg pour justement recueillir l'eau de pluie.
Tous ceux qui se sont déjà occupés d'arbres et de plantes savent que l'eau est essentielle, surtout à Berlin. La ville est située dans une région aride et elle a subi 6 étés consécutifs de sécheresse.
La situation était si catastrophique que les autorités berlinoises ont lancé un appel à tous les habitants. Avec l'eau potable, qui est chère, arroser les arbres de la ville pour les sauver.
Se souvient Hans-Jürgen Tschäbitsch, un autre membre de l'initiative.
On s'est alors dit qu'à Berlin, plus de 70% des immeubles d'habitation donnent sur le trottoir. Et chaque immeuble est doté de gouttières raccordées aux canalisations. Il n'y avait plus qu'à y brancher des cuves de récupération d'eau de pluie.
À Berlin, il n'existait pas encore de procédures administratives dédiées. La demande des habitants de la Fritzsche Straße, la rue où vivent Jörg Wenners, Hans-Jürgen Czebitsch et leurs voisins, était une nouveauté. En mai 2023, la Fritzsche Straße est devenue la première rue de la capitale allemande dotée de deux cuves de récupération d'eau de pluie sur les trottoirs. En forme de cylindre, elle mesure 2,38 m de haut. Chacune peut recueillir jusqu'à 1000 litres. À leur base, elles sont équipées de simples robinets qui permettent ensuite de remplir des arrosoirs.
Si on avait de telles cuves tous les 150 mètres, ça aiderait.
Estime Katrin Wittig, dont l'ONG Wassertank a accompagné le projet des habitants de la Fritzsche Straße.
Depuis un an et demi, nos arbres vont mieux que jamais.
Unglaublich explodiert sind.
C'est le principe même de la ville éponge. On commence à comprendre que l'eau de pluie doit être utilisée là où elle tombe. C'est le moyen le plus efficace pour rétablir le cycle de l'eau dont les humains, les plantes et l'atmosphère ont besoin.
Ce grand reportage, une rediffusion ce matin à écouter en intégralité à 12h10 et 20h40 hors de Paris.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Pour un oui, pour un non, et tout peut changer, voler en éclats. L'histoire de trois syllabes et la fin d'une amitié. La pièce de Nathalie Sarraute est devenue un classique inscrite au programme du bac français, mais c'est surtout un bonheur de l'entendre au théâtre dans la nouvelle mise en scène de Sylvain Maurice.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur